Luc chapitre 6, versets 47 et 48. Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Bonjour à tous, frères et sœurs. Ça fait un petit moment, et pour moi, ça semble vraiment long. Le temps qui passe quand je ne partage pas la parole de Dieu, parce que si je ne partage pas la parole de Dieu, ça fait comme un vide en moi. Parce que le Seigneur me bénit quand je partage. Et quand je ne partage pas, et vous savez ce que c'est, si vous ne communiquez pas les choses auxquelles vous croyez profondément, eh bien ça amoindrit votre ferveur et votre attachement pour ces choses-là. Et donc, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aujourd'hui vous proposer une étude brève qui est très peu préméditée, mais qui n'en est pas moins importante, je pense, pour nous, et essentielle. Du moins, elle l'est pour moi. Et étant donné que je sais que je fais partie du corps de Christ et que c'est mon besoin, eh bien, je vous suggère que vous en avez également besoin. Et aujourd'hui, je me posais la question sur ce que je pourrais partager. Et le Seigneur m'a donné directement le chapitre, Luc chapitre 6. Et donc, je vous propose qu'on puisse lire et voir comment on progresse à partir de là. Dans Luc chapitre 6, en commençant par le verset 39. Jésus leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est point au-dessus de son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas d'une poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, souffre que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment tu ôteras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, ne serait-ce que ici, moi, ce que j'en retire, parce que je ne vais pas vous dire ce que vous devez croire et épouser comme une croyance, parce que ça serait, j'aurais l'impression d'aller directement à l'encontre de ces paroles-là que nous venons de lire, vous comprenez? Donc c'est très éprouvant comme déclaration, parce que si j'ai une poutre dans mon œil, eh bien je ne serais pas à même d'ôter la paille qui est dans l'œil de mon prochain, que cette paille soit grande ou petite, que j'ai l'impression de ne pas avoir ce genre de problème ou pas. Je suis moi-même rendu incapable de venir en secours à mon prochain et de lui éclaircir la vision, de le libérer de ses obstacles à sa vision spirituelle si moi-même je suis aveuglé par mes propres mauvaises habitudes, par mes propres défauts. Donc il me faut absolument et premièrement me débarrasser de cette poutre qui empêche ma vision, figurativement parlant, afin que je puisse être à même de venir aider mon frère, pour qui je me sens si motivé, si ému vis-à-vis de ce défaut que j'arrive à percevoir en sa personne. Et donc ici, nous trouvons une application très appropriée pour notre temps, parce que je vois beaucoup, encore une fois, c'est probablement un penchant à discerner la paille dans l'œil de mon prochain, mais tout de même, il y a cette réalité dans laquelle, en tant qu'adventistes du septième jour, nous avons, n'est-ce pas? Ou du moins nous entendons souvent que il faut que nous prêchions le message, il faut que nous proclamons le message, il faut que nous évangélisions les hommes du monde. Mais le Seigneur dit, tu veux faire ça. Tu veux faire ça, tu veux faire du bien, mais il faut que tu sois, tu aies une vision libre de tout empêchement, de toute paille, de toute poutre, afin que tu puisses être à même d'avoir l'esprit, d'avoir la présence d'esprit, la présence de ton esprit et de l'esprit de Dieu en toi pour pouvoir être capable de correctement partager le message pour lequel tu es si engoué. Ce message pour lequel nous sommes si motivés, pour lequel nous avons une telle ferveur, eh bien, il faut que je sois sûr. Il faut que je sois sûr, si je veux le partager, que j'ai ôté toute entrave à ma vision spirituelle. Autrement, je risque de faire des dégâts. Si nous restons sur la trame de pensée de Jésus dans cette figure qu'il nous donne, si j'ai quelque chose de si gros, aussi gros qu'une poutre dans mon œil, je risque de faire beaucoup de dégâts en voulant ôter ce minuscule brin de paille dans l'œil de mon prochain. Donc si je veux parler du sabbat, si je veux parler de la fin des jours, si je veux parler de l'amour de Dieu, si je veux parler de la destruction de cette terre, il faut absolument que j'ôte cette poutre, ce gigantesque obstacle et cette grande tâche dans ma vision spirituelle, afin de pouvoir faire cela. À supposer que mon message serait bien reçu, il faut absolument, même à supposer cela, il faut absolument que je m'assure que cette poutre ait été premièrement entièrement ôtée. Il faut qu'elle soit entièrement ôtée. Je ne peux pas juste couper un morceau, le plus gros, et garder l'autre qui me rend incapable de discerner les choses spirituelles telles que Dieu les discerne. Et donc ça nous prend aux tripes, comme pour ainsi dire, en nous faisant comprendre que si je veux faire du bien à autrui, il faut premièrement que je permette à Dieu de me faire du bien. En quel sens? Dans le sens où Dieu veut me libérer de cette cécité, de cet aveuglement dont je suis la victime. Mais pas simplement une victime, mais dont j'ai été, avec lequel j'ai coopéré. Parce que nous coopérons toujours à un certain degré, dans une certaine mesure, dans notre propre aveuglement, parce que la Bible et l'esprit de prophétie nous déclare que le péché est toujours un choix et que nous ne sommes jamais forcés, mais que notre libre arbitre, Dieu donnera toujours la place à notre libre arbitre de s'exercer. Et sans que nous ayons exercé notre propre choix, notre propre libre arbitre, il n'y a aucun péché qui puisse être présent dans notre vie. Et donc tous les péchés qui sont présents, toutes les mauvaises habitudes, tous les défauts, toutes les imperfections, elles sont dues, ils et elles sont dues à des mauvais choix. Et pour pouvoir aider mon prochain, il faut d'abord que je me débarrasse de ces mauvaises habitudes, de ces aveuglements. Verset 43. Donc, c'est pour terminer la pensée avant de poursuivre. Donc, si je veux vraiment, bien que cela ait déjà été fait en grande partie, mais si je veux vraiment présenter le message, il faut que j'ai une vision telle que j'arriverai à discerner quand le message sera reçu. Parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Mais si il me manque de discernement, parce que j'ai une poutre en mon œil et en mes yeux, eh bien il se peut que je vais courir vers une activité à laquelle Dieu ne m'a pas appelé. Mais j'aurais pu discerner cela si je n'avais pas été aveuglé. Mais tel que Jésus le dit à l'ange de la Odyssée, et à l'église de Laodicée en général, après cela, comme nous l'avions vu dans nos études précédentes, eh bien, il nous conseille, il me conseille d'acheter de lui, quoi ? Un collier pour mes yeux, afin que je voie. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème, c'est que nous ne voyons pas. Donc nous serions peut-être tentés de dire, j'ai compris maintenant que je ne vois pas, donc maintenant je vois, mais non. Je ne vois pas. Je ne sais même pas que je ne vois pas. C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas dire à aucun moment que maintenant nous savons que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas, parce que ce n'est pas vrai. Je ne sais toujours pas. Et donc j'ai toujours besoin de dire, mais je sais que Jésus a raison, que je ne sais pas. Et donc j'ai besoin de toujours me diriger mes affections, mon attention vers sa parole, à la fois dans la Bible, dans sa parole, la parole de Dieu, et dans l'esprit, le témoignage, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, dans lequel il nous éclaire et il veut restaurer notre vision, afin que nous puissions être à même de faire du bien aux autres, sans quoi nous ne pourrons jamais faire quelque bien que ce soit, quand bien même nous sommes motivé à l'extrême pour évangéliser, notre évangélisation ne sera d'aucune valeur. Parce que ce que je fais, si je veux que ça ait de la valeur, il faut que ce soit fait en Jésus-Christ. Autrement, le Seigneur ne peut pas bénir. Et pour que ce soit fait en Jésus-Christ, il faut que je sois allé d'abord à Jésus et que je l'ai prié, supplié d'une manière active, proactive, d'une manière sincère et consciente de mes propres erreurs, que je suis allé à lui, lui ayant demandé, l'ayant supplié activement en coopération qu'il ôte cette poutre dans ma vision. Et cette poutre est très souvent le fruit de nos propres erreurs, de nos propres errances, de nos propres péchés, de la répétition de nos péchés et de nos mauvaises habitudes. Et donc nous venons à Jésus maintenant. Nous disons, Seigneur, tu es le témoin fidèle et véritable, et je ne sais pas. Je ne vois pas, je ne sais pas que je ne vois pas, je suis pauvre, et Seigneur, aide-moi. Et quand nous nous levons de cette prière, à ce moment-là, le Seigneur nous dit, il faut que nous ayons cette conscience spirituelle pour entendre, maintenant, accomplis tes propres prières. Dans la mesure où tu es capable, toutes les choses que nous pouvons faire, nous devrions nous efforcer de les accomplir et ainsi mener à bien nos propres prières. Ce que nous pouvons faire, nous devons nous efforcer de le faire, et ce que nous ne pouvons pas faire, nous en remettons à Dieu pour qu'il l'accomplisse et qu'il fasse pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, comme l'Esprit des prophéties nous le dit si bien. Et nous continuons maintenant au verset 43. Il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produise de bons fruits, car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et oui, nous espérons peut-être, des fois nous nous disons, oui mais par la force des choses, je vais arriver à faire ce que je n'ai pas dans le cœur de faire. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme cela. Le Seigneur dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et donc c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur qui va déterminer ma capacité à faire le bien, à dire le bien, à évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas ce que cela a été élevé comme étant. Ce n'est pas ce que cela nous a été présenté comme étant. Évangéliser, c'est plus que ça. Évangéliser, c'est premièrement venir à Jésus pour qu'il m'ouvre les yeux. Il m'ouvre les yeux sur quoi? Sur mes erreurs, sur mes péchés. Et si je les vois, ou j'ai l'impression de les voir, il faut quand même que j'aille à lui pour qu'il me montre plus encore. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à faire partie de ces 144 000. Comment sont-ils? Ils sont sans tâche. Ils sont sans tâche. Il n'y a pas une seule tâche en eux. Et donc, si j'aspire à être parmi ces personnes-là, eh bien, il ne faut pas que je me lasse à ce que Dieu me révèle encore et encore et encore ce qui ne va pas avec moi. Parce que comme nous l'avions vu la dernière fois, ce qu'il aime, il reprend. Ce qu'il n'aime pas, il ne reprend pas. Donc quand je suis repris, il faut que je me rappelle que Dieu m'exprime et me manifeste son amour. Pas de la manière dont moi je croirais qu'il devrait me manifester son amour d'une manière charnelle, mais de la manière dont lui seul sait comment manifester le vrai amour. Parce que dans le monde, nous manifestons notre amour, ou du moins le monde manifeste son amour d'une manière qui est propre au monde. Mais Dieu manifeste son amour d'une manière qui est propre à lui. Et c'est lui qui est amour. Et c'est lui qui est la définition de l'amour. Et seul son amour est le vrai amour. Et donc si son amour vient à moi, ou j'ai l'impression que son amour vient à moi comme tranchant, venant à l'opposé même de ce que j'ai l'impression, ce que je crois être, et en effet, ce que je suis par nature, eh bien, mon intelligence doit orienter ma compréhension et ma réponse vis-à-vis de la parole de Dieu, la parole tranchante de Dieu envers mes pratiques. Et donc, quoi que je ressente, il faut que mon esprit domine sur ma chair et que je dise le Seigneur lui-même, le Seigneur même. C'est sa manière d'exprimer son amour. Il n'est pas comme les hommes qui aiment une fois et qui médisent et qui maudissent juste après. Hors de la bouche desquelles sortent à la fois les bénédictions et les malédictions, les bonnes paroles et les mauvaises paroles. Hein, vous savez comment c'est dans le monde, comment ça fonctionne. Vous venez à une parole, à une personne qui est dans le monde, elle dira du bien de vous, devant vous. Mais après, il se peut très bien qu'elle se mette à dire du mal de vous derrière vous, parce que c'est ça l'amour du monde. L'amour du monde, c'est la chair. Et la chair, ce sont les émotions. Et quand on se sent de dire du bien, on dira du bien. Et quand on se sent de dire du mal, on dira du mal, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Et Dieu, il veut notre bien. Et donc, il nous reprend parce qu'il veut nous amener à sa sainteté. Et donc Dieu, il dit ici, le Seigneur, il dit ici, il n'y a point de bon arbre qui produise de mauvais fruits. Donc si je suis un bon arbre, je ne produirai pas de mauvais fruits. Il n'y a pas de mauvais arbre qui produise de bons fruits. Donc le Seigneur, il dirige nos pensées, il essaie à nous faire échapper, il essaie de nous aider à échapper à ces illusions spirituelles par lesquelles le diable essaie de couvrir notre entendement et notre intelligence. Il nous dit, si tu es un mauvais arbre, à cause de tes pratiques de vie, de tes erreurs, de tes errances, de tes imperfections, de tes défauts que tu as cultivés avec le temps, ne te trompe pas toi-même, tu ne pourras pas porter de bons fruits. Ne te dis pas que ça ira, je ferai plus ou moins avec, ça passera juste, ça passera. Non, le Seigneur, il dit, si tu es un mauvais arbre, il faut que tu viennes à moi et que je détruise cet arbre, que je le brûle et que je crée en toi un nouveau cœur. Hein? La prière du psalmiste David dans le psaume 51. Crée en moi allons-y. J'ai pas envie de dire de bêtises. Le psaume 51. Quelle est cette prière que Dieu accomplit en nous? Le psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu, le Seigneur, résolve, je crois que c'est le mot, pour que le Seigneur résolve, pour que le Seigneur remédie à cette tragique situation dans laquelle je suis vautré, parce que je suis un mauvais arbre et je ne peux pas produire de bons fruits, eh bien, je dois venir à Dieu et dire, Seigneur, il n'y a rien de bon. Tu ne peux rien récupérer en moi. Et donc, je lui dis, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Ôte, comme il a promis, j'ôterai de votre cœur ce cœur de pierre, de vous-même ce cœur de pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair. Et donc, je dis, ma prière à Dieu, en harmonie avec cette promesse de Dieu, c'est crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit. Il n'y a plus rien de bon. Il faut que tu effaces tout ça. Renouvelle en moi un esprit droit. Pour que je sois quoi? Un bon arbre qui produise de bons fruits. Parce que je ne peux pas produire de bons fruits, parce que je suis un mauvais arbre. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 3, il n'y a pas un juste, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, étant pécheur, étant de cette nature-là, je ne peux pas venir à Dieu et dire, bon, voilà, accepte mon offrande de sacrifice, d'obéissance. Elle est mauvaise. Il n'y a rien de bon là-dedans. Et je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas évangéliser pour Dieu, je ne peux pas parler de l'amour de Dieu, je ne peux pas déclarer le nom de Jésus-Christ. C'est tout pourri. Vous comprenez? D'où la nécessité pour nous de comprendre, si je veux faire du bien, il faut que j'accepte que Dieu me fasse du bien. Et la manière dont Dieu veut me faire du bien, c'est de me faire accepter qu'il n'y a rien de bien en moi et que j'ai besoin que Dieu il crée en moi le bien. Que Dieu il habite en moi, que Dieu il crée en moi un cœur pur, qu'il renouvelle en moi un esprit droit, qu'il me rende la joie de son salut. Et il n'y a aucune autre manière par laquelle cela puisse être possible que par Jésus-Christ habitant en moi par l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen, frères et sœurs. Nous essayons des fois de faire des raccourcis ou de rallonger, mais selon la chair, et pour éviter cette croix. Mais il n'y a aucun autre moyen d'aller au ciel que par la croix. Et notre cheminement aussi doit être par la croix. Ce n'est pas quand j'ai fini ma marche chrétienne et que je suis prêt à être repris par Jésus dans le ciel, à ce moment-là, je traverserai la croix. Non, la croix, c'est maintenant ou jamais, frères et sœurs. Détourne ta face de mes péchés, je lis verset 11 du psaume 51. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Si je lui dis « efface toutes mes iniquités », qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis « Seigneur, il n'y a que la poutre, je ne vois rien, je suis aveugle. Viens m'en aide. » Et je mets toute ma force de volonté du côté de ma prière. Autrement, cette prière, je vais l'oublier comme toutes les autres prières. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc là, vous comprenez que quand je m'adresse à vous, je ne peux même pas regarder la paille. Je ne regarde même pas, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais je sais aussi que ce que le Seigneur m'a appris, c'est que nous sommes tous comme ça. Donc je n'ai pas besoin de m'occuper de ce qu'il y a dans l'œil de mon frère ou de ma sœur, parce que j'ai un trop gros problème dont je dois m'occuper en moi-même. Et la raison pour laquelle je partage, ce n'est pas parce que j'ai envie de réformer des gens. Non, ce n'est pas cela mon but. J'ai envie de me réformer. Et la manière dont le Seigneur a ordonné que nous nous réformions, c'est en partageant, et notamment pour les personnes qui sont appelées, tout le monde n'est pas appelé à ça, mais en partageant les choses qui nous éprouvent dans la parole de Dieu. Parce que si je ne les partage pas, c'est en harmonie avec ce qui est marqué dans Malachie chapitre 3, ou dans les derniers jours, Dieu se plaît à ceux qui se parlent entre eux de l'Éternel. Et je continue dans le verset 44 de Luc chapitre 6, on continue. Car chaque arbre se connaît par son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne cueille pas des raisins sur un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc, verset 46, « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis ?» Ah, c'est pour ça que, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je peux... Des fois, ça peut nous arriver, frères et sœurs, c'est, nous sentons complètement rabougri par la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu vient à nous et nous ne savons plus quoi dire. Nous avons envie de dormir. Nous avons envie de dormir. Parce que le Seigneur nous confronte à qui nous sommes vraiment. Et il n'y a que Dieu qui fait cela. Le monde n'a pas cette capacité, n'a pas ce désir de confronter l'homme à sa vraie nature, de confronter l'homme à ses vraies erreurs, de confronter l'homme à ses profonds échecs. Le monde n'est pas enclin à faire cela, parce que ce n'est pas en sa nature, ce n'est pas en sa capacité. Mais Dieu fait cela pour nous, ou du moins désire faire cela avec nous et pour nous, parce qu'il a soin de nous. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous voyons ici vraiment comment cela se manifeste. Eh bien, naturellement, nous recevrons cette déclaration de Jésus comme un affront. Un affront. Comment tu me dis ça? Je t'ai servi, mais au fond de nous, nous savons qu'il a raison. Que dit-il? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Ah, le Seigneur, il dit, tu m'aimes, tu me parles, tu me pries, mais pourquoi tu fais pas ce que je te dis? Vous comprenez le langage simple, il n'y a pas plus simple de Jésus. Mais l'homme est compliqué dans son péché. L'homme complique les choses par son péché. Mais les choses sont simples, mais elles deviennent compliquées à l'esprit de l'homme à cause de sa désobéissance. Vous comprenez? Et oui, nous réalisons ça, nous ne pouvons que réaliser ça à la lumière de ce que dit le Seigneur. Autrement, nous restons dans notre ignorance, dans notre aveuglement. Et donc, c'est en venant à sa parole que le Seigneur ôte la poutre qui est dans notre œil, dans nos yeux, dans tout ce qui nous permet de discerner parce que nous sommes complètement aveuglés. Mais si nous venons à sa parole, alors nous sommes assurés qu'il y a bel et bien quelque chose que Dieu est en train d'accomplir en nous, à savoir il est en train de nous restaurer la vue, hein, comme c'était déclaré par le psalmiste, hein, renouvelle en moi, excusez-moi, ma mémoire n'est pas la meilleure, renouvelle en moi un esprit droit et quoi? Et rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Le Seigneur, il peut faire cela. Et c'est ce qu'il accomplit lorsque nous venons à lui et qu'il ôte ce voile qui est devant notre vision. Et qui nous empêche de faire ce que nous avons l'impression d'être enclin à faire, mais que nous sommes en réalité incapables de faire, à savoir faire du bien à notre prochain. Parce que nous avons envie de faire du bien et l'esprit qui anime les cercles adventistes, c'est que la motivation première, la mission première, l'objectif premier, c'est d'évangéliser. Mais c'est mettre la charrue devant les bœufs. Parce que vous ne pouvez pas évangéliser, vous ne pouvez pas faire du bien, vous ne pouvez pas parler de Jésus, vous ne pouvez pas déclarer l'amour de Dieu si nous n'avons pas été d'abord réformés de l'intérieur, absolument remis sans dessus dessous vis-à-vis de qui nous sommes par nature. Si nous ne sommes pas venus à Jésus avec nos fardeaux d'incapacité et notre nature déchue et absolument échouée comme un navire naufragé. Sans cela, sans être passé par cela, ça sera mauvais. Ça sera mauvais, le Seigneur ne pourra pas placer sa main pour bénir. C'est impossible. Il y aura peut-être des élans d'émotion. Sans aucun doute. Il y aura peut-être des élans de motivation, un sens d'avoir été béni. Mais ça, c'est parce que le Seigneur est présent quand bien même nous faisons des erreurs. Nous avons cet exemple dans la manière dont Dieu a pourvu à la croissance spirituelle d'Israël, alors même qu'il s'était choisi un roi et que la ligne des rois s'était prolongée et avait continué. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël était un roi. Et pourtant, Dieu a été avec Israël alors qu'ils étaient gouvernés par un roi. Et donc maintenant, nous en venons à notre lecture biblique, au verset 47. Je reviens au verset 46. « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant foui, et creusé profondément, on a posé le fondement sur le roc, et l'inondation est venue. Le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison-là a été grande. Et oui, je vois ça en ce moment parce que si nous avons besoin de construire quelque chose, quelque bâtiment que ce soit, il faut que ce soit le sol ou les piliers, il faut que cela ait été creusé. Pourquoi ? Parce que la terre, ce qui est en surface, cela va, même s'il n'y a pas d'inondation, cela va glisser. Cela va glisser ou cela va se tasser, et donc il y aura un déséquilibrage de ce qui a été construit par-dessus cela. D'où la nécessité toujours, vous voyez toujours cela dans les constructions, dans le BTP, ils vont d'abord décaisser, sortir toute la terre, déplacer cette terre, l'extraire autre part, et construire sur ce qui a été creusé. Pour que on ait quelque chose qui tienne, qui soit solide. Mais quand nous voulons bâtir notre vie sur sans obéir à Dieu, c'est la même chose que cela. C'est essayer de construire une maison sans avoir creusé. Donc, vous voyez ici, Jésus, il donne une allégorie, c'est que lorsque nous voulons construire en Dieu, eh bien, il nous faut creuser. Et creuser, c'est un effort. Vous comprenez, c'est un effort. Si quelqu'un a envie de construire quelque chose, mais n'a pas vraiment envie de faire d'effort, il va dire, bon, c'est bon, on fait ça dessus et puis ça ira. Ça ira. Sauf que, une personne consciente, elle va dire, ça va être facile maintenant, mais ça va être compliqué après. Parce que si tu as des inondations, je suis désolé, ton truc, il va pas tenir. Comprenez? Et donc, c'est ça que le Seigneur essaie de nous communiquer ici. Il nous dit, c'est peut-être beau à l'extérieur. Mais il y a un moment où ton bâtiment, il vaudra plus rien. Donc, c'est ça le danger de ne pas bâtir notre vie sur l'obéissance. C'est que c'est facile au début, mais après, nous nous retrouverons dans un terrible... comment dire? C'est un cul-de-sac. Nous nous retrouvons après dans un cul-de-sac, où nous sommes maintenant confrontés à quelque chose que nous n'aurions jamais dû faire, à savoir construire sans creuser. Et maintenant, construire en creusant, à savoir un homme, pour reprendre les paroles de Jésus, tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il est semblable à cet homme qui bâtit une maison et qui a fouillé et creusé profondément et en a posé le fondement sur le roc. Donc Jésus est en train ici d'assimiler, de comparer la personne qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique à quelqu'un qui bâtit une maison mais qui en pose le fondement sur le roc après avoir fouillé et creusé profondément. Donc ceci, cette activité de fouiller et de creuser profondément, vous savez, aujourd'hui on le fait avec des pelles, ils ont des pelles, mais avant, ils n'avaient pas de pelles. Hein? Je parle de pelles mécaniques. Hein? Avant, ils n'avaient pas de pelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire de creuser pour pouvoir poser le fondement sur quelque chose de sûr? Ça veut dire beaucoup d'efforts. Vous imaginez sans pelle mécanique de creuser votre fondement pour votre maison? Votre bâtiment, votre étable, quoi que ce soit, c'est beaucoup de travail. Un peu comme aujourd'hui, j'imagine que les Amish, ils le font, hein, parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui construisent leur grange sans outils, tout de manière manuelle. Donc, on peut s'imaginer très certainement que ils creusent les fondements eux à la main. Eh bien, c'est vers cela que Jésus est en train ici d'attirer notre attention. C'est la personne qui écoute ma parole et qui la met en pratique, c'est celle qui fait des efforts. Et c'est celle qui réalise que si elle opte pour la facilité maintenant, elle sera confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas envie d'affronter plus tard. À savoir, la perte de toute chose. La perte de toute chose, sans parler de la vie éternelle et de l'âme. La perte de tout. Mais si je veux, si je prévois, si j'ai cet esprit de prévision, d'anticipation, parce que c'est ça c'est à cela que cela équivaut de creuser pour poser le fondement de la maison sur une base stable. C'est anticiper. C'est ne pas juste se focaliser sur ce que nous pouvons avoir maintenant, ce que nous pouvons faire maintenant, ce dont nous pouvons jouir immédiatement, mais la perspective future de ce que nous sommes en train de faire. Hein, je suis toujours en train de rester proche de cette illustration que Jésus nous donne. Si j'envisage d'avoir quelque chose qui dure, et là nous parlons du caractère, hein, il s'agit ici vraiment d'édifier notre vie chrétienne. C'est de ça dont Jésus il nous parle ici. Eh bien, si je veux être sûr que ce que je suis en train de faire a de la valeur, il faut que je creuse. Il faut que je creuse. Et creuser, comme je viens de le dire, ça va demander de ma part de sérieux efforts. Hein, ce n'est pas comme si je peux louer une pelle mécanique pour 80 euros pendant 3 jours et faire tout le travail. Non, ce n'est pas ça dont Jésus nous parlait. Parce que ça n'existait pas. Jésus nous parlait, tu vas devoir creuser à la sueur de ton front pour faire quelque chose de solide et de vrai. Et quelque chose sur quoi je vais pouvoir placer ma bénédiction. C'est de ça dont Jésus nous parle. Il nous dit, celui qui écoute ma parole et qui obéit, il est comme cette personne-là, qui a passé des mois à creuser pour que sa maison elle tienne. Il n'est pas comme ceux-là, qui ont opté pour la facilité, qui ont tout construit en quelques mois, et après, ils ont vu leur bâtiment, leur maison ravagée. C'est bien au début, mais après, il n'y a plus rien. Alors que pour l'autre, celui qui prend le temps, celui qui doit dormir dans une maison de fortune pendant plusieurs années, lui, on se dit, mais tu perds ton temps. Alors que lui, il a fait ce qui était bien et ce qui était nécessaire au début. Et ensuite, il n'a pas à rougir lorsque la tempête vient tout dévaster, lorsque les crues viennent déferler sur ces régions qui sont autrement épargnées. Donc voilà cette illustration profonde du Seigneur et pratique. C'est vraiment pratique, hein. C'est facile d'écouter, parce que Jésus n'est pas en train de parler de personnes qui écoutent et celles qui n'écoutent pas. Il parle de personnes qui écoutent et qui font, et de celles qui écoutent et qui ne font pas. Donc écouter, ce n'est pas un problème. C'est ce que nous faisons avec ce que nous entendons. Jésus dit, tu écoutes ou tu n'écoutes pas, ça ne fait aucune différence. Ce n'est pas écouter qui est le facteur. C'est ce que je fais avec ce que j'entends de la parole de Dieu. Quand c'est écrit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est faire aussi. Comme c'est écrit, je crois, dans 1 Corinthiens, je ne sais plus où. La foi que nous sommes appelés à exercer, c'est la foi qui agit par l'amour. Et, comme l'esprit de prophétie nous le dit, qui purifie l'âme. Donc une foi qui agit par l'amour, parce qu'on ne peut pas agir par la peur. Une peur angoissée par les terreurs du jour de Dieu, ça ne nous fera pas vraiment agir, ça ne fera pas la vraie foi. Mais la foi qui agit par l'amour, celle-là, elle nous purifiera. Elle nous purifiera parce que nous mettrons de vrais efforts en vue de construire un vrai bâtiment, le bâtiment du caractère, qui, comme l'esprit de prophétie nous dit, sera la seule chose que nous apporterons avec nous au ciel. C'est la seule chose. Donc, ne nous incombe-t-il pas, frères et sœurs, de construire cette chose-là, qui seule durera bien, de bien la construire, de ne pas la faire de manière nonchalante, vite fait, simplement, sans difficulté. Non, parce que ce qui a été fait comme ça sera dévasté. Comme l'illustration nous le présente. Dans l'image que Jésus nous donne, il s'agit d'une maison. Dans la réalité, de quoi s'agit-il? C'est que quand le jour de Dieu vient, quand les persécutions arrivent, quand les épreuves angoissante arrive, si je n'ai pas fondé ma maison sur le roc, après avoir fouillé, creusé, travaillé à la sueur de mon front, figurativement parlant, eh bien, quand le jour de Dieu vient, je vais être emporté. Emporté comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'aurai pas la vigueur, je n'aurai pas la force mentale et spirituelle pour supporter l'épreuve, pour résister à la tentation. Parce qu'il y aura des tentations que vous ne vous pouvez pas encore aujourd'hui imaginer. Des tentations à compromettre, cela vient progressivement. Parce que le diable, il est trop intelligent pour vous mettre tout dans la face d'un coup. Non, cela vient progressivement. Et si en parallèle, nous ne sommes pas en train de construire progressivement de la manière dont Jésus nous a appelé à construire, à savoir en creusant, en faisant des efforts, en mettant en pratique la parole que nous avons entendue, eh bien, à ce moment-là, le moment terminal, eh bien, nous aurons été menés pas à pas par le bout du nez comme un âne par la carotte à faire de plus en plus de compromis, à résister de moins en moins, à nous soumettre au joug de l'emprise du monde de plus en plus, jusqu'à ce que nous arrivions au moment final et nous disions ça passe, nous faisons un petit compromis. Mais ce petit compromis est l'accumulation de tous les petits compromis qui se sont suivis jusqu'ici à travers notre non-mise en pratique de la parole de Dieu que nous avons entendue. Et à ce moment-là, tout est ravagé. Le caractère a été renversé. Comment ? Par les stratagèmes de l'ennemi. Donc si nous ne voulons pas en arriver à ce stade final, il faut qu'aujourd'hui, nous prenions une décision. Il s'agit d'une décision, frères et sœurs. C'est une décision, non pas comme, vous savez, ces résolutions de fin de l'an ou de nouvelle année, où nous disons, nous voulons faire ça, 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 ça. Ça, c'est le monde qui fait cela. Chaque année, on fait une résolution. Bon, après, un mois plus tard, on a oublié. Non, mais les décisions que nous sommes appelés à faire, en tant que croyants, en tant que adventistes du septième jour, et tout ce que cela veut vraiment dire. Hein, pas un mot que vous jetez en l'air comme ça, de manière si légère. Non, en étant des personnes qui attendent activement le retour et qui veulent hâter le retour de Jésus, bien, si nous voulons être ces personnes-là, alors, nous efforcerons de mettre en pratique la parole de Dieu. Et aussi, d'aller écouter la parole qui est pure. Parce que si vous allez écouter la parole qui est mélangée, qui est défigurée, qui est adoucie, eh bien, ça ne sera pas dur de la pratiquer. Mais si ce n'est pas la parole de Jésus, si ce n'est pas la parole de vérité, si ce n'est pas la nourriture au temps convenable, eh bien, ce ne sera pas vraiment fouiller et creuser profondément pour poser le fondement de l'édifice de mon caractère. Donc voilà, frères et sœurs, pour conclure notre méditation, qui n'était pas si courte que ça, j'aimerais qu'on puisse lire cette déclaration de l'esprit de prophétie dans le livre Vers Jésus, à la page 91 et au paragraphe 2. Il est deux erreurs dont les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se garder. La première, nous en avons déjà parlé, consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour rentrer dans la faveur de Dieu. Ça, je passe, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de notre méditation aujourd'hui. Ah, quoique je vais le lire, parce que c'est court. La première consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour rentrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi et à devenir saint par ses efforts entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme et de péché. Seule la grâce de Jésus par la foi peut nous rendre saints. Hein, cela demande d'être élaboré, mais c'est pas grave. On passe au paragraphe qui nous intéresse. L'erreur opposée est non moins dangereuse. Elle consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu, que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir à notre rédemption. C'est ce que nous entendons beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans le monde chrétien en général, même parmi certains cercles adventistes. C'est que la foi, elle fait tout. Et donc, je n'ai pas vraiment besoin de fouiller, de creuser, pour poser le fondement de mon caractère sur le roc. Je n'ai pas vraiment besoin de faire de tels efforts. C'est la mentalité. Veuillez observer ici que l'obéissance n'est pas seulement une soumission extérieure, mais un service d'amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature. C'est l'expression du grand principe de l'amour et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie? Quand le principe de l'amour est enraciné dans notre cœur, quand l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Deux points. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile, voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi, et la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d'être obéissant. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point, quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là est la pierre de touche. Si nous demeurons en Jésus, si l'amour de Dieu demeure en nous, nos sentiments, nos pensées, nos desseins, nos actes seront conformes à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les préceptes de sa sainte loi. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. 1 Jean chapitre 3 verset 7. La justice est définie par la sainte loi de Dieu énoncée dans les 10 préceptes donnés sur le mont Sinaï. La prétendue foi en Jésus-Christ qui délie les hommes de l'obligation d'obéir à Dieu n'est pas de la foi, mais de la présomption. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, lisons-nous dans Éphésiens chapitre 2, par le moyen de la foi, mais la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Éphésiens chapitre 2 verset 8 et Jacques chapitre 2 verset 17. Avant son incarnation, Jésus disait de lui-même, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Psaume 40 verset 9. Et au moment de remonter au ciel, il faisait cette déclaration, « J'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu, dit l'Écriture. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc voilà, Jésus il disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Et ici, on lit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Donc voilà, frères et sœurs, j'espère et je prie que le Saint-Esprit pourra accompagner ces paroles et cette méditation pour qu'elles soient un soutien à la fois pour moi et pour vous, et dans l'espoir de pouvoir vous parler, peut-être sur cette terre, et encore plus dans la vie future. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.